Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron s'habille en vert aujourd'hui. Il doit annoncer des mesures en matière d'écologie. Pour ce faire, il se rend en Haute-Savoie.
Autant dire qu'il est attendu de pied ferme par les habitants de la vallée de l'Arve. Au pied du Mont Blanc, c'est pourtant la plus polluée de France. La circulation des centaines de milliers de poids lourds chaque année, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, provoque un nuage permanent, une sorte de couvercle sur les communes, comme celle de Sallanches, où des mesures spécifiques sont prises dans les établissements scolaires. Serge Puyot.
À l'école primaire Saint-Joseph de Sallanches, la vie des enfants est rythmée par les pics de pollution, avec comme indicateur chaque matin une petite chouette, Maya, 9 ans.
C'est une chouette où, par exemple, quand elle est rouge, ça veut dire qu'il y a de la pollution. Quand elle est noire, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Quand la chouette, elle est rouge, on nous interdit de courir dans la cour de l'école. Pour nos poumons, pour la santé, quoi.
Jean-Siane, une mère de famille.
La nappe de pollution, on vit dedans très souvent. Ça fait peur quand même. Nos petits, on ne sait pas dans quoi ils vont être élevés, du coup.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Monsieur Macron ?
Eh ben, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut pour nos enfants. Il faut vraiment que ça bouge.
Solène a même décidé, avec son mari, de quitter le fond de la vallée pour fuir cette pollution.
Il y a beaucoup d'enfants qui sont asthmatiques, beaucoup de bronchiolites, beaucoup de rhumes, etc. Nous, personnellement, on va essayer de monter un peu pour qu'ils soient dans une école qui soit au-dessus de la mer de pollution, donc au-dessus de 1000 mètres. Donc on déménage.
Wassila a 9 ans et elle lance un appel au président de la République.
On respire mal, il y a beaucoup de malades à cause de ça. Il faut faire quelque chose, on veut que ça s'arrête. J'espère que vous m'écoutez parce qu'on en a vraiment marre de cette pollution.
Le reportage de Serge Puyot à Sallanches pour RTL. En Corse, les nuages ne sont pas dus à la pollution, non, mais aux incendies qui ravagent le cap et le sud de l'île. Depuis hier, les habitants de Sari-Solenzar restent confinés par sécurité. Les rafales de vent dues à la tempête Kira sont en grande partie responsables de ces feux.
Le tarif des complémentaires santé continue d'augmenter, étonnant, sachant que le reste à charge zéro, entré en vigueur le 1er janvier dernier, ne devait strictement rien changer pour les assurés. Alors les mutuelles seraient-elles en train de compenser? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Armelle Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement et les mutuelles nous promettaient effectivement que le zéro reste à charge pour l'optique et certains soins dentaires n'entraînerait pas de hausse de tarifs. La preuve, écoutez Albert Lottmann de la Mutualité française, il était sur notre antenne en novembre dernier.
Il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire des cotisations du fait de la mise en œuvre de cette réforme en 2020. Pour nous, on est autour de 3%, qui est l'évolution finalement habituelle, constatée, et pas plus.
Alors, qui dit vrai, ce monsieur ou pas, promesse tenue ?
Pas du tout. Les tarifs ont flambé. En moyenne, les cotisations ont augmenté de 5% en 2020, après une hausse de 4% l'an dernier. L'UFC Que Choisir a épluché 500 contrats d'assurance santé. Les assurés vont débourser en moyenne 80 euros de plus sur l'année. Et dans un contrat sur 5, c'est même 150 euros de plus sur l'année. Mais la hausse demeure plus ou moins importante selon les contrats. Elle est inférieure à 2% pour les plus chanceux et supérieure à 35% pour les moins chanceux.
Les cotisations ont bel et bien augmenté donc cette année. Les complémentaires santé ont-elles une explication ?
Eh bien déjà, elles ne nient pas. Elles admettent qu'il y a une hausse alors qu'elles avaient promis le contraire. Mais elles ne l'attribuent pas seulement au reste à charge zéro pour les lunettes et pour les dents. Elles disent que les dépenses de santé n'ont cessé d'augmenter. Donc elles font payer plus parce qu'elles remboursent plus avec le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques comme le diabète et le développement de nouveaux traitements médicaux.
La question de 8h avec Armelle Lévy.
Le prix du paquet de cigarettes va encore augmenter le 1er mars prochain et cette fois la barre symbolique des 10 euros sera franchie. Un exemple, puisque c'est la marque la plus fumée en France, le cas des Marlboro Rouges.
RTL Matin 8h03.
Municipal 2020, RTL près de chez vous.
RTL spéciale élection municipale, nous allons à votre rencontre durant cette campagne et ce matin direction Lille.
Martine Aubry, candidate à sa propre succession pour la quatrième fois. La capitale du nord de la France, aux portes de l'Europe, fait face à de très nombreux défis. Embouteillage, pollution, sécurité, les thèmes de campagne ne manquent pas. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL à Lille. Le sujet qui arrive en tête, c'est celui des transports et de la mobilité, Franck.
Oui, chaque matin, c'est un flot de voitures qui arrive sur le périphérique lillois dans cette métropole d'un million d'habitants, des automobilistes qui saturent.
Ça bouchonne tout le temps, on ne sait pas où se garer, de pire en pire.
Des fois, à des heures, on ne penserait pas forcément.
Le sens de circulation aujourd'hui, tout a changé. On fait tout pour éliminer la voiture. Ici, nous, les taxis au niveau de la gare Lille-Fond, c'est très, très, très compliqué.
Depuis quelques années, la municipalité entend donc limiter la place des voitures. Une ville moins polluée, moins encombrée, c'est l'objectif des candidats au beffroi, qui militent certains pour une piétonnisation de la Grand Place, d'autres pour taxer les SUV ou davantage de parking. Un débat suivi de près par Yann Orpin, le patron du MEDEF Lillois.
On souhaite qu'il y ait toujours la circulation, mais une amélioration du mode doux. Il faut trouver un juste milieu. Pour moi, non, il ne faut pas tout piétoniser. Je n'ai pas envie que les Parisiens, les Néerlandais, les Anglais, qui sont nos clients principaux à Lille, ne viennent plus et qu'on perde notre attractivité parce qu'ils considèrent qu'ils n'arrivent plus à venir.
Les vélos ou Vélil ici prennent davantage de place sur les pavés avec des aménagements encore insuffisants, note Yves Castelin, militant associatif.
Lille est sans doute la ville la plus cyclable de la région, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Jusqu'ici, on a rajouté des pistes cyclables là où on ne touchait pas au système voiture. Aujourd'hui, il faut s'attaquer au système voiture. C'est difficile, mais je crois que c'est le sens de l'histoire maintenant.
Le tramway, comme le métro, pourrait être bientôt gratuit, au moins pour certains, avec un arrêt très convoité en ce moment.
Franck Hanson en direct de Lille pour RTL face à Martine Aubry. 8 autres candidats, hein, parmi eux Violette Spielboot pour LREM. Chez les Républicains, c'est l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse qui se présente. RTL près de chez vous à Lille, édition spéciale du midi 30 tout à l'heure, présentée par Christelle Robière sur place. Et donc, hier, Emmanuel Macron a reçu les députés de la majorité à l'Élysée qui avaient bien besoin d'être réconfortés, cajolés après la polémique sur le congé du deuil parental la semaine dernière. Il en a profité pour dire aux parlementaires présents qu'il fallait être fier d'être amateur.
Un parti d'amateur, justement. Autrement dit, loin de la politique à papa, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Hein. À commencer par un certain Alexandre Benalla, figurez-vous. L'ex-LREM Joachim Sonneforger aurait demandé l'accréditation de celui-ci pour être son assistant parlementaire à l'Assemblée. Demande refusée et qui prouve, selon l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire évoluer les mentalités.
J'ai l'impression qu'en France, quand on essaye de faire des choses de manière différente, on est taxé de faire de la provocation. On ne fait pas de provocation. Nous, on veut remettre un peu de liberté dans le débat public. On veut aller chercher des gens qui sont plus intéressés à la politique. Je crois que Joachim et moi, on est EM. On est Emmanuel Macron, mais on n'est pas LREM, qui est devenu un vrai parti politique d'apparatchik avec ses bureaux d'exclusion, sa capacité à préempter un certain nombre de postes, etc. Donc c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire quand on s'est engagé auprès d'EM. C'était renouveler, c'était lancer le débat d'idées, qu'il y ait de la liberté, voilà. C'est pas qu'il y ait un délégué général avec un comité des investitures et un conseil de discipline. Et voilà, ça je pense que LREM se plante et on ne soutiendra pas. En tout cas, moi, moment, je ne soutiens pas LREM.
Alexandre Benalla, joint par Pauline de Saint-Rémy pour RTL.
Dans un instant, direction la Syrie, RTL a pu pénétrer au cœur d'une prison et rencontrer des détenus djihadistes. A tout de suite.
RTL, 8h07. Je reçois pharmacie.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Agnès Bonfillon, Yves Calvi.
En Syrie, les Kurdes font ce qu'ils peuvent pour maintenir en détention les milliers de djihadistes arrêtés, mais ça devient de plus en plus compliqué.
Oui, les structures sont loin d'être adaptées. Depuis la fin du califat, plus de 10 000 combattants de l'État islamique s'entassent dans plusieurs prisons. La moitié se trouve dans un établissement ultra sécurisé dont le lieu est tenu secret. Pour RTL, nos envoyés spéciaux, Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux, ont pu y pénétrer.
Des gardes masqués nous accueillent et nous mènent devant une des cellules. Il y a une petite ouverture dans la porte. L'odeur qui se dégage est à peine supportable. Dans cette pièce de 12 mètres carrés, sans lumière du jour, 44 détenus dorment les uns sur les autres. Un homme vient vers nous, barbe courte et capuche sur la tête.
Il y a des conditions sanitaires qui sont... Il y a les poules, il y a la gale. Ce sont des conditions infernales, voilà. Vraiment infernales. On ne voit même pas le soleil une fois par semaine. La nourriture, elle aussi, n'est pas bien saine. Voilà.
Cet homme de 65 ans est tunisien. Il est enfermé ici depuis la chute de l'État islamique il y a presque un an. Comme beaucoup d'autres, il dit n'avoir jamais combattu. Il assure qu'il tenait simplement un commerce à Raqqa. Mais Ali, le responsable des surveillants, n'y croit pas une seconde.
S'ils étaient tous des civils, alors qui était Daesh? C'est n'importe quoi. Ces hommes ne sont pas là par hasard. Nous avons mené l'enquête, récupéré sur les réseaux sociaux des vidéos, des photos de leur exaction. On sait qui ils sont.
Pour éviter toute mutinerie, les prisonniers ne savent pas que le chef de l'État islamique est mort, ni que la Turquie a lancé une offensive en octobre. Un détenu nous demande combien de temps il va rester ici. nous n'avons pas le droit de lui répondre.
On a besoin de savoir ce qu'on va faire de nous. Ça va faire un an qu'on est ici. Il faut qu'on nous amène devant les tribunaux, qu'on nous juge. Mais qu'on ne nous laisse pas comme ça. On veut des informations, mais minimes. Qu'on nous dise qu'il va nous arriver.
Au fond de la cellule, certains hommes sont très maigres et ne bougent presque pas. Les plus malades sont tous regroupés dans une grande pièce. 350 prisonniers blessés ou dénutris. Parmi eux, un homme avec une couverture grise sur la bouche qui lui sert de protection.
J'ai eu une grave anémie et beaucoup de gens sont morts. Et j'ai une fracture dans la main et j'attends d'avoir une chirurgie. Pour nous, c'est vrai, c'est vraiment de la torture. Quelle que soit la raison, on est ici, bah, on a des droits.
Les autorités kurdes ont annoncé récemment qu'elles pourraient commencer à juger tous ces djihadistes au printemps. Mais en attendant, ces 5000 prisonniers restent à leur charge, avec les risques d'évasion que cela comporte. D'autres prisons ont déjà été attaquées ces derniers mois.
RTL en immersion, en reportage de nos envoyés spéciaux en Syrie, Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux. Aux États-Unis, il reste encore de nombreuses étapes avant la désignation du candidat démocrate. Mais à l'issue de la deuxième étape des primaires, c'est Bernie Sanders qui arrive en tête. Dans le New Hampshire, le septuagénaire de l'aile gauche du parti est devant le centriste Pete Buttigieg. Cela dit, c'est très serré. Hein. Le sénateur obtient 26% des voix, 1,5 point à peine devant son principal rival. En foot, malgré la défaite, les supporters de Belfort sont fiers de leur équipe. Équipe de 4e division, on le rappelle, battue assez logiquement hier soir par le Stade Rennais en quart de finale de la Coupe de France. Score sans appel 3-0. À suivre ce soir, Dijon-PSG à 18h30 et OL-OM à 21h.
On termine avec l'histoire du jour, Agnès.
Oui, alors elle concerne une pianiste canadienne. Angela Hewitt vient de perdre son instrument. Alors quand je vous dis perdre, elle ne l'a pas égaré, non. Elle l'a simplement confié à une entreprise soi-disant spécialisé pour le transporter, ce piano. Mais voilà, l'instrument qui valait 177 000 euros est tombé. C'est coupé en deux. Impossible de le réparer, surtout qu'il s'agissait d'un exemplaire unique au monde, avec quatre pédales. La virtuose ne s'en remet pas et parle de drame. J'espère qu'il sera heureux au paradis des pianos, écrit-elle sur son compte Instagram.
Oui. Alléluia, les assurances sont sur le coup.
J'imagine.
Nous sommes d'accord. C'était le journal d'Agnès Bonfillon. Agnès, si je vous dis...